Le masque et la plume. Bonsoir à tous, bienvenue en public au studio Charles Trenet de la maison de Radio France pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité littéraire, c'est-à-dire à la rentrée littéraire avec les bons élèves de la rentrée pour parler de 5 parmi les 581 nouveaux romans. Nelly Capriélian des Arts Incorruptibles qui a brillamment animé le Mac de l'été tout au long du mois d'août. Chapeau, c'était une quotidienne, c'était pas évident. Avec Olivia de Lamberterie Duel, chapeau aussi, qui a fait cette interview il y a 10 jours, dont tout le monde a parlé, de Brigitte Macron, qui t'a déclaré « J'ai une passion sans borne pour Flaubert, c'est impensable pour moi qu'on ne lise pas Madame Bovary ». Elle va en faire vendre des...
Je pense que les ventes de Madame Bovary devraient s'envoler.
Oui.
Nicolas Sarkozy avait fait vendre à son cœur défendant la princesse de Clèves. Là, elle redonne envie de redécouvrir Madame Bovary. Elle en parle extrêmement bien.
Enfin, t'étais contente de la rencontrer au cœur de l'été et pour parler de littérature. À un moment donné, tu parles même, tu dis qu'elle est à la fois lettrée et féministe.
Oui,
c'est ça.
Elle est tout ça. Elle est lettrée, féministe et très intelligente.
Elle va être contente, elle a eu raison de choisir le L. Jean-Louis Hézine du magazine littéraire.
Oui.
Et puis éventuellement aussi un peu du Pays d'Auge. Et de...
Oui, oui, beaucoup.
Hein,
oui,
de temps
beaucoup,
en temps.
Oui.
Hein, ça va ?
Oui, oui.
Oui, bon été.
Tu me félicites pas ?
Oui. Non, moi aussi. Je te félicite.
J'ai rien fait.
Je te félicite pour l'ensemble de ton œuvre.
Ah, merci.
Et avec le respectable Michel Crépu de la Nouvelle Revue Française et du Gâtinais.
Oui.
Où il a passé une partie de son été dans son château, sur ses terres.
Oui.
Hein. Allez, dans le courrier de la semaine, Benoît Guillemont de Lyon, et il n'est pas content. Hein. Ah. Je fais donc partie des 200 000 lecteurs complètement subjugués par ce roman magnifique, intelligent et sensible, La tresse de Laetitia Colombani. Continuez à démolir unanimement un ouvrage, je saurai désormais qu'il me sera un vrai plaisir de lecture. Au contraire, Madame Michèle Pinault, tiens, c'est de chez nous, ça, Jean-Louis, de Saint-Aubin-sur-Mer, nous remercie d'avoir dit du mal de La tresse. Quel mauvais bouquin, tout est attendu faux. Bref, vous avez mis en mots ce que je pensais. Et mon libraire est bien triste d'en avoir recommandé une pile. Edith Pi, qui habite Paris, nous remercie, elle aussi, encore, d'avoir recommandé L'Ordre du Jour d'Éric Vuillard, chez Actes Sud. Une merveille, un bijou encore. Merci de m'avoir fait découvrir cet auteur. Son livre va circuler. À propos de L'Amérique m'inquiète, tiens, de Jean-Paul Dubois, ça c'était à l'Olivier. Olivier Rouat, expat français actuellement à Washington. J'ai écouté avec amusement vos commentaires sur ce livre et vos conclusions définitives sur ce pays de fous. J'ai l'impression qu'un même procédé appliqué à la France conduirait vos homologues critiques littéraires américains à une conclusion équivalente. Ces Frenchies ne sont pas fréquentables. Je vous confirme que l'Amérique est complexe et multiple, mais vaut le voyage. Pour l'instant, je suis pas sûr. Et puis aussi beaucoup de réactions à propos de la géopolitique du moustique d'Éric Orsenna. Quand il parle pas de La Fontaine, il parle du moustique. Là, c'est Mélanie Foissé qui nous précise que la fondation de l'Institut Pasteur ne produit pas de vaccins, mais est un institut de recherche fondamentale. Éric Ier de la Macronite, comme tu l'avais appelé, Olivia, ne mérite donc pas ces petits commentaires moustiquement vôtres. Béatrice Viron demande à Arnaud de se limiter à la critique littéraire et de ne pas utiliser le masque pour faire campagne contre les vaccinations obligatoires, car ce sera bientôt le retour de la mortalité infantile par rougeole, coqueluche et diphtérie. C'était un peu ce que tu avais dit, dans mon souvenir, Olivia.
Tout à fait.
Et Nac Nibon Veille de Nancy, qui le dimanche vers 20h07 n'existe pour personne, c'est pour moi une cérémonie. Je m'enferme dans la cuisine et j'écoute vos critiques faire œuvre de mauvaise foi et de militantisme outré avec une énergie digne de l'antique. Bref. Il a bien aimé entendre Arnaud déblatérer sur la géopolitique du moustique jusqu'au moment où Arnaud parla du principe de précaution pour s'opposer aux politiques vaccinales. C'est un peu comme si on se méfiait de l'eau pour éteindre un incendie. Enfin, un bouquet de merci destiné à Olivia. C'est pas à propos de Brigitte Macron, mais parce qu'il y a 15 jours, ici, au masque, tu as recommandé La Nuit pour adresse de Maude Simoneau chez Gallimard. Et là, c'était un fleuve de remerciements. Catherine de Lyon, j'ai dévoré cette bio romancée qui vous emporte dans la fureur de vivre de Robert McAlmon, acolyte de Joyce et d'Hemingway. C'est si rare d'encourager le premier roman d'un jeune auteur, ou encore Martin Ruggiero. Merci à Olivia pour la recommandation de La Nuit pour Adresse. Cet hommage d'une jeune éditrice d'aujourd'hui à un grand éditeur oublié des années 20 est magnifique, ou Clémentine Zapatero, récit poignant sur le véritable prince oublié de la génération perdue, ou encore Monsieur Bergelin. Merci Olivia d'avoir choisi La Nuit pour Adresse de Maud Simoneau. Ce livre m'a accompagné mes après-midi siciliens à la plage, ou Comment bronzer sans finir le cerveau raplapla. Bref, un très beau livre où Hemingway en prend pour son grade. Et on commence avec deux romans inséparables, aussi fusionnels que leurs auteurs. Je veux parler de la comédienne et réalisatrice Eva Ionesco et de l'écrivain Simon Liberati. Je rappelle quand même qu'il y a 2 ans, le second avait publié un beau livre, très beau livre même, sur la première. C'était Eva, où il racontait le destin fracassé d'une fillette dont l'enfance fut volée et que sa mère, Irina Ionesco, photographié nu pour des magazines, certains étant érotiques. Aujourd'hui, Eva Ionesco publie son premier roman. Alors, un titre qui est un peu provocateur, Innocence.
Innocence, oui.
Chez Grasset, elle raconte à nouveau comment sa mère la manipulait, la vendait, et faisait tout pour qu'elle ne connaisse pas son père, disparu quand elle avait 9 ans. « Cher papa, tu m'as terriblement manqué et tu me manques encore », écrit-elle. Eva Ionesco donc a mené une enquête. Une enquête qu'il a amené de Paris à Londres, de Prague à Ibiza. Elle a retrouvé la trace de ce père, qui était d'origine hongroise. Il s'appelait Miklos Bereny. Il est enterré à Lorient depuis 1973. Il ne l'avait pas reconnu, sa fille. Et elle découvre à la fin qu'il s'était engagé à 18 ans, en 44, dans la Waffen-SS. Jean-Louis, tu l'as regardé, ce livre ?
Je l'ai même lu, en fait. Oui, c'est impressionnant. C'est du lourd.
Qu'est-ce qui est impressionnant ?
C'est tout est impressionnant. Tout.
Ah, le cas, c'est du
très
lourd.
C'est du lourd, oui. C'est très lourd. Oui. C'est un pavé. Ça. J'ai eu comme une révélation à la page 211, pour ce qui est du monde dans lequel je me trouvais. J'ai eu quand même peut-être le sentiment d'une espèce de bousculade perpétuelle. Tu sais, c'est assez bizarre. J'avais l'impression, pendant ces 200 pages, d'être d'une porte à tambour. Et en fait, il y a plein de gens qui te passent, qui surgissent dans ton dos, qui sont des célébrités, en fait, tu vois.
Ah oui.
Et qui ils sortent du tambour avant toi, tu vois, tout le temps. Tout le temps. Je ne sais pas s'ils te passent entre les jambes ou sur les côtés. Enfin, c'est assez étonnant. Mais là où j'ai pris conscience peut-être c'est cette bousculade, oui, tu m'as peut-être précipité par un effet de turnover, tu vois, comme on dit aujourd'hui.
Ah, tu parles anglais maintenant.
Oui, enfin, bon. Mais c'est vrai que c'est, je le dis sans.
Alors.
Mais il y a une phrase qui m'a. Il y a une phrase, oui, page 211, qui m'a. Là, tout d'un coup, j'ai pris conscience du monde dans lequel j'étais. Cette phrase est dit. Attends, elle est bien là. Non, je l'ai vue tout à l'heure. Ah oui. À peine j'entre dans la coupole qu'un brouhaha s'élève. Alors là, je me suis dit, ah oui. À peine j'entre dans la coupole. Alors la coupole, c'est avec un C majuscule. C'est l'établissement parisien.
C'est le restaurant.
C'est un restaurant.
Brasserie.
Il y a une Rolls qui est garée devant. À peine j'entre dans la coupole, hein, le brouhaha s'élève. Et je me suis dit qu'il y avait deux sortes de gens dans la vie. Il y a ceux qui ne peuvent pas entrer à la coupole sans qu'un brouhaha s'élève. Et il y a ceux qui ne peuvent pas entrer à la coupole sans que tout le monde s'en foute. Mais le plus important, c'est la relation des deux. Parce que le deuxième groupe, qui est monstrueux, c'est l'essentiel, et constitue le public du premier.
Tu vois, c'est tout ce qu'elle raconte dans ce livre, ça ne t'a pas vraiment intéressé, d'après ce que
Si, si, ça m'a intéressé.
Non, apparemment,
côté,
non.
Si, si.
Non.
Si, mais c'était pas, c'est dans un monde qui m'est un petit peu exogène,
oui,
si tu veux. Enfin,
oui.
Voilà, qui met un petit
par
peu.
Rapport à ton monde familier,
oui, voilà,
dans lequel tu
là, quand même.
Tu vis.
Mais on ne les quitte pas, quand même,
bon.
Ces célébrités. Mais je pourrais t'en dire beaucoup d'autres.
Oui, non,
mais quelquefois.
Non, mais c'est bon, c'est bon.
C'est à se demander même s'il n'y a pas quand même. Parce qu'à la coupole en question.
Oui, non, mais ça va.
Tu vas avoir 3 célébrités d'un coup. Là, tu as Catherine Deneuve dans cette page-là, Bulle Ogier et Maria Schneider. Ça va un peu en déclinant. Mais
c'est horrible ce que tu dis.
C'est méchant pour Maria Schneider.
Non, je dis non, ça pour plaisanter. Je dis ça sur la notoriété. Il y a, bon, la pauvre.
C'est pas grave.
Mais on dit Catherine Deneuve est très belle. Elle est encore plus belle que dans Peau d'âne. Ça n'est pas possible. Je connais quelqu'un qui connaît Catherine Deneuve. Et il m'a dit, tu la croises au marché quand elle achète ses poireaux. Tu la remets pas, tu vois ?
Sauf qu'elle n'achète pas ses poireaux, Catherine Deneuve.
Non, pas à la coupole, en tout cas. Mais il y a quand même chose de l'ordre...
Oui, non, mais tu as dit l'essentiel, les autres vont parler.
Non, je ne pense pas.
Les autres vont parler.
De l'ordre de la... Non, moi, je vais pas dire.
Bon. Olivia ?
Moi, je trouve que tu fais preuve d'une mauvaise foi, là, abyssale, sur un livre qui est suffocant et très réussi. C'est très étrange parce que c'est une histoire qu'on connaît déjà, que les Simon Liberati a racontée.
On la connaît racontée par son compagnon.
Film, mais qu'on connaît également par son film, puisque
c'est en 2011, voilà, qu'Isabelle Huppert.
Mais qu'elle avait racontée avec un prisme romanesque, parce qu'elle explique dans le livre que c'était impossible de raconter avec des images l'histoire de cette petite fille de 4 ans violée par sa mère qui fait d'elle des photos non pas érotiques mais pornographiques. Et cette histoire qui est terrible, je trouve qu'elle la raconte avec une distance absolument inouïe. Sans doute nécessaire, parce que sinon l'histoire est tellement atroce que ce serait sûrement insupportable. Et elle le fait, je trouve, d'une très belle manière, par cercle. Et puis, elle raconte une époque qui trouve tout à fait normale de faire... ce genre de photos, et qui prend ça d'ailleurs pour de l'art. Et puis, par cercle comme ça, comme un peu à la Modiano d'ailleurs, je trouve, souvent, elle raconte une enfance violée au travers de personnages incroyables. La mère est une sorte d'ogresse terrifiante. L'arrière-grand-mère est dans un déni total, elle voit bien ce qui se passe, mais elle n'a pas du tout envie de le savoir.
Mère à laquelle Lali a un nombre impressionnant de procès, hein, il faut dire la vérité.
Absolument. Elle ne porte pas de jugement, d'ailleurs, sur ce qui s'est passé. Elle le raconte d'une manière détachée, avec des détails inouïs. Il y a des scènes très très belles avec les vêtements. C'est une petite fille, après une adolescente, qui a un goût pour les vêtements extraordinaires, qu'on peut comprendre parce que finalement sa mère passe son temps à vouloir déshabiller cet enfant, et on a l'impression que cette petite fille développe un goût pour les vêtements comme une sorte d'armure qui pourrait la protéger contre cette mère. Il y a une scène dans un grand magasin à Londres, on dirait tout d'un coup une scène de conte de fées, et puis après ces vêtements vont être instrumentalisés pour des séances de photos. Je trouve que la manière dont elle a de parler de ce père, hein, qui là aussi est très modianesque, puisqu'on se rend compte que c'est un personnage
qui ne comprend vraiment qu'à la fin,
qui est très louche. Mais d'ailleurs, il ne faut pas raconter la fin.
C'est pas un secret.
Non, mais quand même, c'est quand même un livre d'enquête à la poursuite d'elle-même. Je trouve que avec ce livre, on a la naissance d'un écrivain, et c'est toujours une chose très étonnante.
Michel,
Je trouve ce livre magnifique. Absolument magnifique. Et le titre particulièrement approprié. La notion d'innocence, de la manière dont elle raconte cette histoire, c'est vraiment, effectivement, ce qu'on ressent à la lecture. Oui. C'est-à-dire une fraîcheur, une capacité incroyable. Je n'ai pas de distance, parce qu'il y a énormément d'affection dans ce livre. Et même pour sa mère, enfin, il y a presque une sorte de complicité, parfois. Mais l'innocence est réellement, je crois, le vecteur profond de ce livre. Et alors le nombre de scènes qui ont l'air de sortir de Céline parfois ou d'auteurs, enfin qui sa mère vit au début du livre vit avec un peintre complètement fou. Et ils vont aux États-Unis dans une espèce de fête hippie à San Francisco et il la laisse littéralement tomber. Elle a juste 10 ans. Il lui donne $10 pour rentrer à la maison et elle se retrouve toute seule dans un taxi. Ne sachant même pas comment elle va faire pour retrouver le chemin de façon adresse. Tout ça est raconté d'une façon incroyablement fraîche et...
Surtout très simple.
Quand on a
en souvenir le livre de Liberati, qui a une très belle prose d'ailleurs, mais beaucoup plus chargée, beaucoup plus lyrique. Tout d'un coup, la simplicité de Bayonesco, sur les mêmes faits, la même histoire, tranche de manière assez brutale.
Tout à fait. Moi, je suis impressionné par Nelly. La qualité.
D'abord, je veux dire que je suis ravie de retrouver Jean-Louis, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un masque ensemble. Et je décrivais un peu, je vous décrivais chacun un ami qui écoute ce soir, et il me disait, mais Jean-Louis, il est comment? Et je lui disais, mais c'est le meilleur d'entre nous, parce que généralement, il a un truc, il s'accroche à une page.
Ah oui, non.
Et je lui disais la page 56. Alors là, je trouve que tu as progressé jusqu'à page 211.
En général, c'est surtout la quatrième de couverture.
ça, je n'osais pas le dire, Jérôme.
C'est sa page préférée.
Et ensuite, il digresse. Écoute, tu as été vraiment là de mauvaise foi, comme dirait Olivia, pour le livre d'Eva Ionesco.
Ah non, je crois qu'il a l'air sincère. Non, là.
Je suis impressionné comme vous. C'est pas le problème. Voilà.
Tu incarnes le brouhaha.
Oui.
Sur ce livre.
Non, c'est peut-être parce qu'on a lu, Eva de son mari.
Non, mais alors, il faut pas s'arrêter à Eva de Simon Liberati. Encore une fois, on parlait de My Little Princess. Moi, la crainte que j'avais, c'était que ce soit à peu près la même histoire. Et c'est vrai que le grand absent de My Little Princess, comme tu le disais, Jérôme, c'était le père. Et c'est vrai qu'on se demandait, en voyant ce film, qui est absolument magnifique, c'était où est ce père ? C'était très mystérieux. Et là, on le trouve enfin, mais qui arrive ? Alors, je ne suis pas complètement d'accord avec vous sur le fait que ce n'est pas juste une enquête. C'est quand même aussi des réminiscences, c'est une enquête psychique dans sa mémoire. Et je pense que ça a dû être très douloureux pour elle de l'écrire.
Il y avait de très jolis souvenirs, d'ailleurs, de ce père.
Il y a des très jolis souvenirs, parce qu'il aimait sa fille. Absolument, elle l'aimait. Et je trouve que c'est aussi un livre donc, sur toute l'horreur de l'attitude de sa mère envers elle, qui l'a abusée, en fait, même physiquement, symboliquement, psychologiquement. Mais je trouve que ce qu'on ne devinait pas dans le film, c'est-à-dire ce père qui l'aide à surmonter tout ça et à s'affirmer. Parce que quand même, il faut une sacrée force, quand on a eu cette enfance, pour à un moment donné devenir Eva Ionesco. C'est quand même une femme extrêmement forte, sous ses airs un peu de petite poupée fragile et très charmante.
Bon, elle a plus cet air-là aujourd'hui, hein.
Oh ben elle a toujours un côté un peu...
Pas poupée fragile, non.
Très bien habillée, très jolie. Oui, mais c'est une femme de fer. Et je trouve que... Et là, on a cette chose absolument magnifique. Et Jérôme, retourne à la coupole. Retourne page 211 à la coupole, Jean-Louis. Mais tu parlais des deux livres, en effet, de Simon Liberati et d'Eva Ionesco qui paraissent à la rentrée. Et là, je pense qu'on en parlera en parlant du livre de Simon. Il y a quand même ce point commun, et ça, j'ignorais ça, sur les pères engagés. Alors apparemment, le père d'Eva, c'était pas vrai. C'était un mensonge de la mère.
Ah non, c'est vrai.
Ah non, non, c'est vrai.
C'est vrai. Non, elle découvre à la fin.
Mais
que c'est vrai.
Mais il n'y est pas allé, finalement.
Si.
Ah, bah, vous voyez, moi je l'ai lu au début de l'été.
Mais
j'ai
comme toi.
Sa mère lui faisait croire que c'était un espion, et ça, c'était sans doute faux.
Et même, c'était un Hongrois.
Mais boire à la coupole.
Mais c'était un Hongrois qui s'était engagé.
Innocence chez Grasset.
On n'a pas lu le même livre.
Eva Ionesco.
Et l'innocence, tu as raison.
Et en même temps, que paraît le livre.
C'est un titre trouble parce que la mère, sans arrêt.
On va ce soir évoquer les 5 livres que j'ai inscrits au programme, sinon je vais me fâcher.
Ce n'est pas grave, ma fille est innocente. Non, mais Michel avait raison sur le titre.
En même temps, donc, que paraît le livre de sa femme, Simon Liberati publie également un récit sur son père, Les Rameaux Noirs.
Après la fenaison.
Non, mais vous arrêtez là. Les Rameaux Noirs, c'est chez Stock. Un père, André Liberati, alors lui qui a été également tenté de s'engager dans l'armée allemande, mais lui, il a été refusé à cause de sa jeunesse, de son jeune âge.
Il s'en est voulu après toute sa vie.
Absolument. Qui fut un poète proche des surréalistes. D'ailleurs, Liberati est quand même le filleul
d'Aragon.
Oui. D'Aragon, s'il vous plaît. Parce que toi, tu n'es pas Jean-Louis.
Non, mais il n'est pas gentil avec son parrain, d'ailleurs.
Non.
C'est vrai que je le lis.
Un père sujet à des crises de folie. Qui s'est converti au catholicisme. Alors, on lui doit un livre que je n'ai pas lu, qui s'appelle « L'exaltation de la Sainte Croix ». Mais on comprend qu'il y a une attirance pour le spirituel. Liberati, André, qui disait « Surréaliser sa vie, c'est trouver ou retrouver sa vraie vie, dépouillée de tout, ce qui pourrait la rendre acceptable. » Quant à Simon, il écrit « C'est l'amour de mon père qui m'a guidé et me guide encore dans mon travail littéraire. » Alors, c'est un livre construit avec des petits textes, petits chapitres, vraiment, qui est l'occasion aussi pour lui de payer sa dette à tous les écrivains dont il se sent proche, de Nerval à Maurras. J'ai découvert que Maurras faisait partie de ses lectures de chevet.
Il le lit très bien.
De Dickens à Léoto, de Proust à Céline, de Guyotat à Truman Capote. Et je signalerai rapidement après un recueil, que publie également Simon Liberati. Donc alors, Monsieur Ionesco, si j'ose dire, ces Rameaux Noirs, qu'est-ce que vous en pensez ? Tiens, Nelly.
Mais c'est marrant parce que c'est un livre complètement différent du livre
totalement
au départ.
Totalement différent.
C'est-à-dire, ils ont deux écritures complètement différentes.
Mais qu'ils ont écrit ensemble. Là, à l'étage, paraît-il, dans leur maison, oui, l'autre au rez-de-chaussée.
L'autre en bas, oui. Ouais. Mais en même temps, c'est. Moi, qu'est-ce que vous voulez? Je le trouve magnifique. C'est-à-dire que Simon, il peut. Simon Ionesco, c'est à cause de toi, Jérôme. Simon Liberati. Aujourd'hui, je crois qu'il pourrait réécrire Le Bottin. J'adorerais, quoi. Il a une écriture, je trouve, absolument poétique, onirique, envoûtante, en même temps extrêmement précise, qu'on trouve aussi chez Eva Ionesco. Il y a aussi cette quand même précision des détails, etc. Et je trouve cette façon de mixer extrêmement finement essai sur l'inspiration, mémoire à travers ses lectures, mémoire à travers ses amours, mémoire à travers la drogue, l'alcool. Je trouve qu'il en fait, et tout ça est très, comment dire, imbriqué de façon très poétique. Je trouve que c'est un livre absolument sublime.
Et puis ce père
est
un personnage lui aussi assez étonnant.
Est magnifique, hein. Et justement il a failli mourir, je crois, il y a un an ou deux.
Oui, parce que le livre commence à l'hôpital.
Et c'est un hommage absolument vibrant à son père, quoi. Et c'est marrant qu'il est, ça leur vient à tous les deux au même moment. Et peut-être c'est le fait de s'être rencontrés. Je pense que peut-être l'amour à un moment donné apaise, et on a envie de parler de ses parents de façon apaisée.
Ça, Jean-Louis, c'est toujours pas ton monde, mais ça peut quand même t'intéresser parce que
ça m'intéresse, oui, ça m'impressionne, même comme d'ailleurs Ionesco. Mais écoute.
Ça vient vite, hein, quand même.
Dis-moi,
ça vient trop vite.
Il en cite tellement, lui aussi, des célébrités, enfin, littéraires, cette fois.
Mais c'est des auteurs.
Toi, tu parlais du Bottin.
Oui. Parlons-en.
Je dirais presque le seul défaut du livre, c'est de ne pas avoir fini sur un Bottin, c'est-à-dire, je veux dire, un index des non-cités. Ça aurait pu en faire, du coup, un parfait bréviaire du snobisme intellectuel, d'une certaine manière.
Mais pas vraiment,
quand
non,
même.
T'exagères.
Si. Écoute, non. Cet homme-là a la chance d'être né dans un milieu culturel extrêmement favorisé. Il y a Aragon qui est pas loin, grâce à qui il est né, finalement, puisque ses parents ont perdu un enfant, et c'est Aragon qui va les sortir du chagrin et les convaincre d'en faire un autre, qui sera donc Simon Liberati. Donc il a vécu dans un milieu extrêmement favorisé. Et
tu ne vas pas lui reprocher quand même ça.
Non, bien sûr que non. Mais en fait, ces milieux-là qui sont périphériques aux grandeurs d'établissement vivent souvent du bavardage que ça peut occasionner, tu vois. C'est un petit peu ça que je reproche. On me reproche de ne m'appuyer que sur une page,
non,
donc je m'appuyais
tout,
sur trois
éloge,
pages. Je m'appuyais sur trois pages. Page 193. Il se permet d'écrire « En littérature, au moins, j'avais la certitude de savoir y faire. Oh, » le bol du mec. Il a la certitude de savoir y faire en littérature. Ça, alors, c'est pas donné à tout le monde. Page 143. C'est Proust qui m'a donné envie d'écrire en prose. Bravo, Marcel, tu n'as pas œuvré en vain, vraiment. Page 82, là, je me suis convaincu que ce monsieur avait beaucoup d'humour, parce qu'à la page 82, il remercie en quelque sorte Aragon d'être né, pour lui trouver tout de même, à la page 83 ouais. qui suit, une coloration, je cite, « un peu trop mondaine ». Alors là, je vais vous dire... C'est comme si un paon se moquait les plumes d'un coq sur ses plumes trop voyantes. Vous voyez, un petit peu, c'est un petit peu ça. En plus, il se commet à dire « je n'aime pas ses romans ». Alors dis donc, quand t'enlèves ses romans à Aragon, bon, il reste le poète, mais on n'en sait rien du poète, on ne sait pas quels sont les gars. Non, ça relève du snobisme. C'est-à-dire que le snobisme, à l'origine, ça consistait à tirer de soi les signes d'appartenance à sa classe. Là, on peut se permettre aujourd'hui, parce que tout ça est devenu très subtil, d'au contraire avoir l'air de les mépriser. « Je n'aime pas ses romans ». Je dois la vie à ce monsieur, mais je n'aime pas si on voit, finalement. Il y a un petit côté comme ça. Donc, je crois que c'est un livre qu'on aurait aimé de la part... Il est même jeune. Il a quoi, la cinquantaine, la soixantaine C'est un livre qu'on aurait trouvé pesant de la part d'un vieil académicien en fin de parcours, tu vois.
Ce qu'on aurait trouvé pesant chez un vieil académicien,
pas lu
ça aurait été l'écriture.
Je suis impressionné quand même.
Jean-Louis,
l'écriture est merveilleuse.
C'est vrai que l'écriture est agréable. Oui, vas-y, quelle est ta question?
Rassure-moi, tu n'as pas lu Les Violettes de l'avenue Fauche?
Les Violettes de l'avenue Fauche. Non, j'ai pas lu ça.
C'est un recueil qui paraît chez Stock au même moment du même Simon Liberati que je te déconseille.
Ah bon, d'accord. Bah, c'est pas
parce que dedans, Tu retrouves non seulement Eva Ionesco, mais aussi Carla Bruni, Jean-Pierre Léo,
je trouve,
Jean-Jacques
si tu veux,
Chou, Claudia Schiffer et Marisa Berenson.
Ouais, je trouve, donc, si voilà, tu veux, qu'il a un ego.
Il est très brillant, mais c'est pas pour toi.
Il a un ego un peu.
C'est
un peu,
quand
peu
des articles
il me fait penser à Rému.
Et la presse, on y travaille, on sait comment c'est. On veut des stars.
Au lieu de te prendre pour Napoléon, tu pourrais pas te prendre de temps en temps pour Rému.
Non, mais tu me regardes, tu me parles.
Rému répond après avoir réfléchi, je n'oserais jamais.
Michel,
là, ça me fait penser un peu à ça.
Mon bon Michel.
Écoute, moi, je trouve que c'est une pure merveille, ce livre.
Ah, oh, Michel, comme je suis d'accord.
Je suis désolé, Jean-Louis, parce que...
T'as passé un bon été, toi.
Oui, très bon, très bon. J'ai trouvé ce livre merveilleux.
Il a fumé de l'herbe dans son gâtinet
vrai,
au moment de la fenaison.
C'est vrai, je me suis remis à fumer...
c'est pas bien, ça, Michel.
Des cigares.
Oh, des cigares.
Mais non, c'est une merveilleuse brocante de la mémoire. C'est pas, je comprends pas ton obsession du mondain là. Je te suis pas là.
Tout c'est chez nous ça.
Parce que c'est un cabinet de curiosité.
C'est pas ça du tout. C'est vraiment il y a un endroit dans le livre qui reste pour moi absolument extraordinaire. C'est la traduction de ce poème grec du 3e siècle avant Jésus-Christ où il y a tout à coup l'apparition d'un cyprès blanc. C'est merveilleux. Je n'ai jamais lu un poème d'une telle beauté.
C'est un cyprès albinos ? C'est quoi, c'est un...
Je ne sais pas, mais... Non, je le trouve tellement beau, ce poème, que je vais le reproduire dans la NRF, parce que il faut faire circuler ces choses. Et c'est ça, la beauté de ce livre. C'est la littérature, ça. C'est une rivière qui transporte des toutes sortes de choses différentes. Et la mondanité, enfin, écoute... On s'en fout.
Oui, ça n'a aucune espèce d'importance.
On sait très bien que la mondanité est une pourvoyeuse aussi de littérature. Donc, je ne vois pas le problème.
Michel, toi, tu ne peux pas le dire, mais il y a quand même les chroniques d'Eva Ionesco et Simon Liberati à la NRF sur la mode qui sont absolument merveilleuses.
Oui,
j'attends avec impatience.
Ce sont tes collaborateurs ?
Oui, mais je
remercie. Ah non, ce n'est pas des collaborateurs, c'est des écrivains.
Mais non, je ne la remercierai pas.
On parlait tout à l'heure.
Oh là là, Jean-Louis.
Non, mais.
Bon, elle pense quoi, Olivia de...
C'est le terme.
Elle pense quoi, des rameaux noirs, Olivia de Lamberturie ?
Je trouve que l'écriture est magnifique et qu'elle emporte vraiment tout. Et que l'idée de dévoiler ce qu'il appelle son arrière-monde est très belle. Je trouve que l'œuvre de Simon Liberati est une œuvre qui interroge la place des morts dans la vie. C'est ce qu'il fait. Et que là, il y a un détail fascinant, que lui occupe la place du mort. Effectivement, puisqu'il raconte, que tu disais, Jean-Louis, qu'il avait un grand frère qui est mort lorsqu'il avait un an, et que donc c'est Aragon qui a convaincu ses parents d'avoir Simon. Et voilà, donc je trouve la clé de son œuvre, c'est il occupe la place du mort. Après, une fois que j'ai dit ça, je trouve que c'est quand même un livre assez exigeant et difficile. Alors peut-être que je suis une cruche, mais moi, je ne suis pas tout à
fait... Pourquoi difficile ?
Ah si, quand même assez. C'est un livre qui va ravir les initiés que vous êtes.
Est-ce mais qu'il moi, peut plaire qui à Brigitte pas... Macron ?
Sûrement, parce qu'elle a une vraie culture classique. Mais moi qui ne suis pas tout à fait...
Que l'on ne connaisse pas tous les gens qui sont... C'est pas grave.
Des poètes grecs du 3e siècle.
Mais j'ai découvert.
Ils ne sont pas forcément mes compagnons de route.
Mais j'ai découvert, je ne le connaissais pas.
Je trouve que parfois, c'est un livre assez difficile, assez exigeant.
Je ne comprends pas. Là.
Non, tu n'es pas d'accord.
Donc, il
avait écrit une anthologie de ses apparitions. Là, c'est une anthologie de ses inspirations. Donc, il faut se laisser porter.
Oui.
Parfois, il y a des passages qui vous touchent. Et parfois moi, il y a des choses qui me sont totalement étrangères.
C'est absolument pas grave.
Il bavarde de manière intelligente, mais il bavarde.
Et
il ferait mieux d'écrire son œuvre.
Non, que c'est un livre pour initier, mondain ou pas, mais qui ne parle pas à tout le monde.
Allez. On a trois livres encore à évoquer, on va être un peu plus vite. Là, c'est Les Rameaux Noirs chez Stock de Simon Liberati.
Les Rameaux Noirs qui viennent de Nerva.
Oui, Les Violettes de l'Avenue Foch, c'est donc toujours de Simon Liberati. C'est un recueil formidable de portraits chez Stock. Mais en revanche, je te déconseille, Jean-Louis, d'aller y mettre ton nez. Notre vie dans les forêts chez POL, le nouveau roman de Marie Darrieussecq, l'auteur du fameux truisme. Alors là, c'est un roman futuriste, plus exactement, Jean-Louis, dystopique.
Alors, ça y est.
Écrit y est, à la mots. Première personne, où la narratrice, Marie, qui fut autrefois psychothérapeute, se cache dans une forêt avec des compagnons d'infortune.
On ne peut pas l'oublier.
Ils ont fui... De quoi ? Oubliez quoi ?
Qu'elle a été psy avant d'être romancière.
Ah oui, c'est le début du livre. Ils ont fui un monde où les membres de l'élite possèdent un clone, conservé dans un centre spécialisé, une sorte de banque d'organes, où ils peuvent puiser en cas de maladie. C'est assez commode, tu vois, il te manque un bras, tu vas à la banque, tu récupères ton bras. Et Marie, elle entretient avec sa moitié, qu'elle surnomme la chochotte, des relations bizarres, que j'ai évidemment, on va laisser au lecteur le soin de découvrir. C'est un roman transhumaniste.
Oh. Ça, c'est le mot.
Transhumaniste.
Ah, d'accord.
Est-ce qu'il vous a plu ?
Ça a un rapport avec la transhumance ou le...
Toi, dis-moi, sorti des prés, t'as du mal, hein, Olivia ?
Ah oui, je trouve que c'est un roman formidable, qui est tout à fait construit à la manière de son premier roman, qui avait connu le succès que l'on connaît.
Ah non, c'était différent.
Truisme. Non, parce que c'est l'histoire d'une femme qui est une intellectuelle, qui est une femme savante, et qui tout d'un coup se trouve prise avec les transformations de son corps, et qui est complètement désarmée.
Mais Truisme, c'était plutôt Kafka, tu vois, alors que là, c'est plutôt 1984.
Oui, parce que c'est une dystopie, ce mot à la mode, qui est revenu à la mode, avec le succès de La Servante écarlate de Margaret Atwood. Je trouve que c'est très fin, que c'est très drôle, elle met beaucoup d'humour dans tout ça, qu'elle a l'audace du romanesque. Or, c'est une rentrée qui est assez passionnante, mais qui souvent confond le roman, le récit, les mémoires, les souvenirs. Là, c'est un vrai roman. Et le curseur est placé exactement au bon endroit. C'est-à-dire qu'elle imagine une société qui est assez proche de la nôtre, qui est assez effrayante.
C'est ce qui nous attend.
C'est ce qui nous attend, c'est assez effrayant.
Dans
et elle a
mois,
des fulgurances en inventant, je trouve, des métiers. Elle invente par exemple ce métier de cliqueur. Le cliqueur, c'est un homme ou une femme qui est chargé d'apprendre à penser aux robots. Et pour apprendre à penser aux robots, ils doivent leur donner des mots et faire toutes les associations d'idées qu'on peut faire avec un mot. Je me suis demandé d'ailleurs qu'est-ce qu'on pouvait faire comme association d'idées avec le masque et la plume. Peut-être on peut demander à nos éditeurs d'en faire.
Le casque et l'enclume.
Moi, j'avais pensé à tuba, mais c'est un roman comme ça qui est truffé, je trouve, de trouvailles. Et comment on fait pour apprendre la vie à un clone ? Et au début, elle déteste son clone, qu'elle trouve idiot. Il faut lui apprendre à marcher, il faut lui apprendre à tout. Et puis, elle va se prendre d'une certaine tendresse pour lui. Non, je trouve que c'est un roman, vraiment un vrai roman, intéressant, intelligent et drôle. Elle se moque beaucoup d'elle-même et de son métier de psychanalyste. C'est la première fois qu'elle en parle dans un roman et elle le fait fort bien.
Michel ?
Alors, d'accord sur la thématique du livre, ce qui nous attend dans 3 mois.
Mais arrêtez.
Mais c'est évident. Je suis déjà un robot, tu vois. Enfin, je ne sais même plus si je suis vraiment un
comment vous pouvez croire
homme, n'en est pas un.
Au sens classique. Au sens classique, je ne sais plus. Ouais. Mais alors ça c'est très c'est assez
inclonable, Michel.
J'espère. Et donc je suis assez impressionné par assez admiratif de la façon dont elle s'empare de ça avec beaucoup d'humour en effet. Mais finalement, j'ai pas accroché. Finalement, je me suis un peu ennuyé. J'ai trouvé que c'était quand même un peu attendu. Enfin, comme toujours avec les livres futuristes, c'est toujours le problème avec ces livres qui imaginent ce qui nous attend. Je ne sais pas pourquoi
chiant,
ça devient ennuyeux.
C'est chiant, les science-fiction.
Non, je ne le dirai pas.
C'est beaucoup moins intéressant que les
Donc voilà, donc j'aime beaucoup Marie Darrieussecq. Elle est pleine de talent et tout ça, et de faconde et de drôlerie sur elle-même. En effet, il y a tout ça. Bon. Et là, c'est un peu emmerdant.
Jean-Louis ?
Bon, ben, écoute, quand elle se rappelle qu'elle a été psy, c'est terrible. C'est terrible. Elle me fait penser à un mot qu'on avait sur Madame de Staël. On disait Madame de Staël est une excellente femme qui noirait tous ses amis pour avoir le plaisir de les pêcher à la ligne. Ben, c'est exactement ça. C'est tout à fait elle. Tout à fait Darrieussecq. Bon, moi, globalement, j'aime pas les dystopies.
T'aimes pas les dystopies ?
Non, mais du tout. J'accroche pas du tout. Fahrenheit 451, j'ai trouvé ça nul.
La Servante écarlate, non ? De Margaret Atwood, non ?
Non, j'aime pas. Non, j'aime pas. J'aime ni les dystopies, ni les utopies, qui sont l'inverse, quoi. Parce qu'au fond, la dystopie, c'est une utopie qui échoue ou qui est triste. Mais t'as aussi des utopies très tristes, très accablantes. En gros, globalement, je vomis tout ça.
Oui.
Je pourrais faire une conférence là-dessus.
Quelle radicalité.
Sur le vomi empaillé.
Oh.
Comme Boris Vian le faisait.
Tu n'es pas un robot, toi.
Non. Donc, non, j'ai... Alors, évidemment...
Non, mais t'as dit l'essentiel, là.
Truisme,
quelle page,
là, j'avais aimé Truisme, il y avait...
56.
Truisme, elle avait joué beaucoup de la proximité...
Mais Truisme, c'était le bon vieux
la proximité
temps
des mammifères entre eux, si tu veux, entre l'animal et l'homme. Elle avait joué beaucoup de ça. Ça peut s'entendre, un peu comme une fable de La Fontaine, ou je ne sais pas. Mais là, c'est autre chose. C'est une invention presque débile. Enfin, bon,
oh, mais comment peux-tu dire une chose
si, je veux dire, cette réserve que chacun aurait pour réparer qu'il y a un bras, un œil...
C'est ce qui nous attend, Jean.
Oui, tu te c'est déjà le cas.
Mais qu'est-ce qu'il raconte?
Le vol des organes qu'elle raconte à la fin, c'est déjà le cas.
Mais ils
ne
sont pas bien,
il
faut les empêcher de
dire. En même temps, le fait que tu dises que tu es mal au cœur prouve déjà que tu as un cœur.
Quoi?
Que tu es mal au cœur,
oui,
tu as envie de vomir, tu as un cœur.
J'en ai pas de remplacement.
Tu te rends pas compte comme tu évolues.
Je peux même te l'affirmer.
C'est la seule chose qui n'arrive pas à faire encore.
Je peux vous laisser.
Est-ce que tu as aimé ce livre?
Non, j'ai pas aimé ce livre. Non. Et Dieu sait que j'aime beaucoup Marie Dariussec. Et j'aime beaucoup les dystopies aussi, qui généralement, comme 1984, parlent du présent, qui sont une critique du présent. Et là, je trouve qu'elle va pas jusqu'au bout de son pari. Je pense qu'on peut pas réduire ce livre à juste une dystopie qui parle de ce qui nous attend et qui est un bon roman. Enfin, pour moi, c'est pas ça. Je trouve qu'elle va pas jusqu'au bout. Elle ose pas retrousser ses manches, écrire un vrai roman de science-fiction.
Mais moi, même j'ai même eu le sentiment d'aujourd'hui. D'une longue nouvelle.
Une longue nouvelle et pas du tout qui met du temps à démarrer. C'est extrêmement, je trouve, froid. Je
pense que c'est trop compliqué.
C'est le problème. Elle est trop intelligente pour écrire ce genre de livre. C'est-à-dire, elle veut montrer dans son livre qu'elle n'est pas non plus dupe du genre, qui est quand même encore aujourd'hui par les grands écrivains français.
Elle manque de naïveté.
Marie Dariussec,
la dame, elle parle.
Un très, très, très bon écrivain français, je trouve, et encore un peu, trouve ça peut-être encore un peu trop vulgaire d'écrire de la science-fiction. Et je trouve qu'elle y va pas carrément. Et moi, je me suis vraiment beaucoup ennuyée. Je trouvais ça trop froid. Je m'en fichais. J'ai aussi l'impression d'avoir vu ça dans beaucoup de romans de science-fiction. Et puis, ce qui me fascine aujourd'hui, c'est qu'avec tous les films qui arrivent, avec les séries, enfin, aucun écrivain ne sort de sa bulle de référence littéraire. Et regarde, on est dans une vie où tout va très vite et où on peut lire un livre, voir une série, etc. Et je trouve que par rapport aux dystopies, au cinéma, genre intelligence artificielle ou d'autres films comme ça, je trouve qu'elle est à la rade.
Mais moi, je trouve justement qu'elle y va juste à la bonne mesure, parce que si elle y allait plus, on n'y croirait pas. Ça serait pas plausible.
Mais si, on y croirait. Alors, et ça, c'est le talent d'un écrivain, c'est de le rendre crédible.
Je trouve que la réussite de ce livre est que tout est plausible quasiment après-demain. Et que c'est ça qui est effrayant, qui rend les choses...
Moi, je me sens, tu vois...
Notre vie dans les forêts, c'est chez Paul, c'est Marie Dariussec. D'ailleurs, folie pour folie, chez le même éditeur, POL, il y a un bouquin mourir de rire et totalement fou qui s'appelle La Fonte des Glaces.
La Fonte des Glaces, c'est
un
génial.
Un certain Joël Baquet.
Absolument, alors, je suis complètement d'accord.
C'est bien
meilleur.
Il y a un autre livre chez POL qui s'appelle Les Vacances, qui est formidable aussi.
Dans le registre de la folie, à peu près inimaginable, un mec qui va acheter dans une brocante un manchot empereur empaillé et qui va aller chercher les vrais dans l'Antarctique, c'est peu probable. Le bouquin est formidable. Voilà, La Chambre des Époux chez Gallimard. Le nouveau roman d'Éric Rednart, l'auteur de Cendrillon, de L'amour et les forêts, non pas notre vie dans les forêts, mais L'amour et les forêts. Et là, c'est un livre assez surprenant, il faut dire, puisqu'il est en deux parties. La première, c'est très simple, c'est un récit autobiographique, donc dans lequel Rednart raconte le cancer du sein qui a frappé sa femme Margot en 2006, alors qu'il était en train de terminer Cendrillon, comme si d'ailleurs les deux combats contre la maladie et pour la littérature étaient intimement liés, c'est du moins ce qu'entend Rednart. Et la seconde partie, c'est la version totalement romancée de ce drame. Il met en scène un compositeur de musique contemporaine, Nicolas, qui a écrit son grand œuvre, une symphonie, alors que sa femme Mathilde vient de réchapper d'une grave maladie. Et puis, en cours de route, il tombe fou amoureux à Milan d'une autre femme, qui, elle aussi, vit ses dernières heures. Donc, il est question beaucoup de femmes qui sont confrontées à la maladie et la manière dont lui, avec tout ça, fait son œuvre. Et quand ce n'est pas lui, c'est son double romanesque, c'est-à-dire Nicolas, le compositeur. Nelly.
Et il est beaucoup question d'amour. C'est un magnifique roman d'amour. C'est une ode au romantisme. À se réapproprier le romantisme amoureux aujourd'hui, à ne pas en avoir peur. Mais moi, j'ai adoré ce livre. Il est absolument magnifique. Et je ne comprends pas. Depuis quelque temps, on entend des critiques qui font un peu la fine bouche. Ce serait un peu grotesque et ridicule.
La presse est sévère pour ce livre.
Et je trouve ça incompréhensible pour moi. Parce que je trouve que le pari littéraire, il est absolument réussi à deux titres. C'est-à-dire qu'à la fois, dans ce registre auto-fictionnel, il y va carrément, il va très très loin, il raconte des choses très intimes et de façon extrêmement... d'une façon romanesque, finalement. Et puis, il double ça en montrant aussi son dispositif d'écrivain, son dispositif d'écriture. Ça m'a rappelé un peu la démarche de Delphine de Vigan, qui montrait comment, dans son dernier livre, comment... Ceci est une histoire vraie. Qui était plus en trompe-l'œil. Mais tu vois, elle démontrait aussi les mécanismes de l'écriture. C'est quoi la vérité? C'est quoi la fiction? Comment l'une s'inspire de l'autre ou vampirise l'autre? Et là, je trouve que cette espèce de tour de force au milieu du livre, où il nous dit... Je m'apprêtais, en fait, donc c'est Eric Reinhart, écrivain, à raconter, à écrire un roman, et finalement, je l'ai laissé tomber. Et ce roman, c'était ça. Et là, tout d'un coup, il inclut le roman qu'il n'aurait pas dû faire, il l'inclut dans le livre. Et là, c'est encore une mise en abîme. Il y a des jeux de masques assez dans tous les sens, mais pour dire de plus en plus, approfondir des vérités à travers plein de possibles. Il le faisait aussi dans Cendrillon, remarquable roman. Bon, moi, j'ai trouvé ce livre magnifique.
Olivia,
non, moi j'ai pas du tout aimé. J'ai adoré la première partie.
Pas du tout aimé ou
j'ai adoré la première partie. Je trouve la première partie autobiographique où il explique comment, lorsqu'il a su que sa femme était malade, il s'est mis à écrire à toute vitesse, lui qui est plutôt un écrivain de la lenteur, son livre avec une idée qui est fondée sur la pensée magique. Si j'arrive à aller au bout de ce livre, ma femme va guérir. Je trouve que cette idée est très belle. Elle est tout à fait semblable à celle de Joan Didion. Si je garde les chaussures de mon mari dans le couloir, mon mari n'est pas mort et il va revenir. Je trouve que tout ce qu'il dit sur les ravages de la maladie dans le couple sont formidables et qu'il le fait avec beaucoup d'âpreté. Il a une manière de raconter le corps malade, de raconter le désir qui s'en va et que tout ça est très beau et très poignant. Et puis, à la page 72, à partir du moment où il y a la mise en abîme, je ne marche plus, parce que je trouve que tout d'un coup, il se noie dans une prétention. Quel est juste le décalque qu'il fait de lui-même? Donc, il est un écrivain, et il a une manière assez drôle de se mettre en scène dans la première partie, comme un écrivain qui n'arrive plus à rien. Et il y a beaucoup d'autodérision. Et tout d'un coup, l'écrivain qui arrive à rien devient un compositeur génial. Ok? Il y a une fatuité dans l'idée que là, il va pouvoir sauver toutes les femmes de la maladie. Il y a quelque chose, je trouve, d'extrêmement gênant.
C'est au second degré, ça.
Écoute, je n'ai pas senti le deuxième degré. Je trouve que ça devient maniéré, ça devient maniériste, ça devient presque grotesque. Et ça m'a, je ne sais pas, ça m'a donné une sorte de répulsion. Parce que je trouve que le personnage de la femme, tout d'un coup, est sacrifié. Il n'est plus qu'une espèce d'appendice de l'homme. Et c'est l'homme qui va, tout d'un coup, lui donner la vie.
Mais c'est un chant d'amour à Margot, celui-là.
Oui, non, ça, je ne trouve pas. Moi, je trouve que le personnage de Margot, tout d'un coup, il est sacrifié. Elle devient une femme magnanime, parce que les femmes d'écrivains, elles doivent les laisser avoir d'autres vies, aventures.
Mais même la deuxième femme, c'est encore Margot. C'est une sorte de duplication dans la fiction.
Mais je n'aime pas.
Personnages
en fait,
de fiction,
je pense que c'est parce que j'étais peut-être trop du côté de la femme, et je trouve que la manière dont il a de parler de la femme devient quelque part insupportable.
Jean-Louis.
Ah oui, tout à fait. Moi, alors écoute, si je pouvais, je lui donnerais le Nobel.
À qui?
Mais à quelle page?
Mais le Nobel de quoi? C'est une bonne question. Je crois qu'il faudrait créer un Nobel qui n'existe pas. C'est le prix Nobel des bons sentiments. Ça, je lui donnerais. Alors là, parce que. Il n'y a pas de pire ennemi dans la littérature que les bons sentiments.
Mais ce n'est pas des bons sentiments dans ce livre.
Les bons
traits, c'est même le contraire.
C'est des sentiments.
On est dans l'édifiant. On est dans la vertu, la piété conjugale. Tout ça est très joli. Mais tout ça n'est pas... Alors, circonstances aggravantes, terriblement aggravantes. D'abord pour les personnages, ensuite pour les lecteurs, et enfin pour les pauvres critiques, l'histoire est vraie. C'est-à-dire que t'es un peu otage du truc, tu vois. Dans les autres romans de Ionesco, on était un peu voyeur. Par force, le lecteur est voyeur. Là, il est otage. Mais il y a aussi un autre défaut, vraiment, on a raison de souligner quelque chose de l'ordre de la fatuité, ou même du grotesque. La musique. Alors, la musique, non, dans le roman... Sauf d'une manière très précise, on ne peut pas parler de la musique. On ne peut pas dire ce qu'est la musique. On ne peut pas transcrire dans le... Non, mais on ne peut pas. Tous les musiciens te le diront, et même les écrivains qui savent. Quand Proust parle de la sonate de Vinteuil dans La Recherche, il le fait à travers un type qui s'appelle Swann, qui ne connaît rien à la musique. Et c'est ça qui est très beau. Oui. Mais là... Se mettre dans la tête, soi-disant, d'un compositeur, mais cette tête, elle sonne terriblement creux, parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'il raconte. la musique est inatteignable, la musique est de l'ordre de l'ineffable, de l'indicible, et c'est une erreur monstrueuse que de l'avoir ignorée pendant tout un roman.
Tu n'as pas lu, il ne décrit pas cette musique.
Bah, il décrit la situation.
Qu'il est compositeur de musique contemporaine.
On n'y croit pas du tout.
Cette
symphonie qu'il essaie d'achever, on n'en comprend pas la teneur, donc pas l'objet. Je veux dire, ça n'a pas de sens.
D'écrire sur la musique, ça devient
c'est un contresens.
Quel est le sens de ce décalque? Voilà.
C'est un contresens.
Michel, écoutez, moi d'abord, je l'ai lu d'une traite, ce livre. C'est la première fois que je lis un livre d'Éric Reynard d'une traite. Donc je note le phénomène.
Il est beaucoup plus court que le précédent.
Bon. Et alors, je trouve qu'il y a au fond deux Éric Reynard qui ne se confondent pas complètement. Il y en a un qui est d'une drôlerie merveilleuse, qui est une espèce d'ironiste. C'est la façon dont il se décrit comme écrivain, qui spécule sur ses chances de combien d'années il lui reste pour écrire un bon livre, etc. Il y a un Reynard que j'aime beaucoup, qui me fait rire et qui est très présent dans ce livre, et un autre Reynard qui fonctionne moins bien, romantico, kitsch, qui joue avec la chose. C'est vrai que son deuxième degré n'est pas complètement au point, mais l'ensemble est quand même assez curieux et, pour une fois, ne m'a pas déplu.
La Chambre des Époux, c'est chez Gallimard et c'est Éric Reynard. Je vous en veux beaucoup à tous les quatre. Je le dis sincèrement, pour une fois, c'est que j'avais inscrit aussi les souvenirs de La Marée Basse de Chantal Thomas au Seuil.
C'est un très beau livre.
Oui, mais il n'empêche qu'à cause de vous, on aura 4 minutes pour en parler. Je trouve ça vraiment dommage. Vous avez été trop long sur les livres précédents et vous ne savez pas être concis. Résultat, les souvenirs, l'autobiographie liquide, de Chantal Thomas, qui passe de l'Atlantique à la Méditerranée pour évoquer surtout sa mère, une femme à la fois dépressive et formidable sportive. Jean-Louis ?
Ah oui, c'est un livre très mystérieux aussi.
Oui, mais on va dire, dis-moi pourquoi tu l'aimes surtout.
Je l'aime pour son non-dit. Parce qu'il y a un non-dit qui est avancé avec une discrétion absolue sur le personnage de sa mère qui n'a rien transmis.
Jackie.
Qui a vécu un deuil parce que son mari est mort très jeune, sans rien comprendre à la passion de sa femme, visiblement. Et elle n'a pas su non plus la transmettre à ses enfants, rien transmettre à ses enfants. C'est une figure qu'on voit s'en aller dans la mer constamment. Elle est obsédée de natation et notamment de crawl. Toute sa vie, elle a crawlé, on l'a vu de dos comme ça, et sans qu'il y ait d'autres pulsions vitales en elle. C'est très étrange. Et ce qui est non dit, c'est la façon dont Chantal Thomas, qu'on sait être une spécialiste de Sade, de Casanova...
Du 18e en général,
18e, oui. Rapproche ça d'une certaine façon libertine. Sa mère était en quelque sorte une libertine qui s'ignorait, c'est-à-dire une... D'ailleurs, elle dit dans libertinage, il y en a...
Dans la seconde partie de sa vie, quand son mari est mort.
Mais... C'est de l'ordre du non dit, un petit peu. Mais enfin, tout ça est amené avec beaucoup de discrétion.
Cette mère qui avait son visage de maison obscure et son visage de natation lumineux. D'ailleurs, le livre commence par un plongeon de... Jackie, donc de la mère de Chantal Thomas, dans le grand canal du château de Versailles,
qui était où il est interdit de nager.
Et surtout le lieu des plus grands livres de Chantal Thomas. Michel.
Oui. Je dirais que j'aime ce livre à cause de sa fraîcheur. C'est un peu la même chose, finalement.
C'est même son humidité.
C'est un peu la même chose.
Oui.
La même chose qu'avec Eva Ionesco, bien que le registre d'écriture soit très différent. Ça n'a rien à voir. Mais finalement. Et d'ailleurs, Chantal Thomas étant une grande spécialiste du 18e et du libertinage et de ce qui touche au sexe, à la séduction, là, on le retrouve à la manière de Chantal Thomas, dans une légèreté, quelque chose d'un peu impalpable, qui est très charmant, très agréable à lire et qui m'a plu.
Olivia.
C'est un livre absolument splendide, qui est à la fois une ode à la mer dans laquelle on nage. Elle a une manière de décrire le bonheur de nager qui est absolument unique. Et puis un portrait de sa mère qui était une mère pas du tout aimable et assez peu aimante.
Égoïste.
Et qu'elle fait de manière bouleversante en disant comment elle a réussi à transformer cette femme qui était une sorte d'étrangère un peu particulière en une sorte d'amie. Et on comprend d'où vient Chantal Thomas, on comprend d'où vient son goût pour le passé, parce que c'était une femme qui était uniquement inscrite dans le présent, qui n'aimait que le présent, qui passait sa vie à faire table rase du passé. Dès qu'elle était triste,
elle l'appelle l'oublieuse.
Exactement. L'oublieuse. Elle se débarrassait de tout, des objets, et de ce goût pour le présent, eh bien Chantal Thomas a conçu son goût pour le passé. Et finalement, c'est un livre sur ce qu'on transmet à ses enfants, presque malgré soi, Et c'est d'une beauté, mais absolument inouïe. Et l'écriture est magnifique. Moi, c'est un de mes livres préférés de la rentrée.
Ce qui est formidable, c'est qu'il explique rien de ce que tu dis là, c'est magnifique.
Parce que sa mère lui a transmis, moi, je ne suis pas d'accord avec Jean-Louis, je pense qu'elle lui a quand même transmis quelque chose.
Bien sûr.
En effet, comme tu disais, elle était assez égoïste.
Elle a hérité d'elle, vraiment.
L'art de nager. Et savoir nager dans la vie, c'est pas mal. Et savoir garder sa tête flotter au-dessous de l'eau et de pas se noyer, c'est pas mal.
Et préférer le grand large.
Et préférer le grand large à la rive. Qui peut nous plomber. Oui. Et je trouve, moi j'ai retrouvé toute la finesse de Chantal Thomas. Je trouve qu'elle est d'une intelligence extraordinaire, que c'était pas évident de se pencher sur son enfance, comme l'a fait en effet Eva Ionesco. Et je trouve que là, elle applique aussi son regard d'historienne, et en même temps, elle ne néglige pas le sentiment et l'émotion. Et c'est d'une finesse, d'une élégance, sans arrêt, d'un charme, d'un, oui, c'est un peu volatile, comme tu disais, Michel, mais c'est absolument réussi.
Eh bien, c'est Souvenir de la marée basse, c'est Chantal Thomas, et c'est aux éditions du Seuil. Je vous propose, pour finir cette émission, de me conseiller un premier roman. On va commencer avec Nelly.
Ah bah, c'est au Seuil aussi, c'est le premier roman de David Lopez, Fief, que j'ai trouvé mais extraordinaire. C'est sur une bande de jeunes qui est dans une banlieue, mais vous savez, ces banlieues très lointaines de Paris, qui sont ni vraiment la campagne, ni la banlieue parisienne, une espèce de zone périphérique, qui est un peu une sorte de no man's land. Et c'est une bande de gamins qui errent, qui sont ensemble, qui se vannent, qui rappent. Enfin bref, le langage est vraiment à l'honneur de ce roman. Et se parler un peu de ces gamins qui est d'une poésie absolument inouïe. Ils font aussi de la boxe. Ils ne vont peut-être pas s'en sortir. En fait, la question, c'est est-ce qu'ils s'en sortent ou pas? Est-ce qu'il faut s'en sortir ou pas? Est-ce que s'en sortir de cette zone-là, c'est trahir, en fait, ce d'où on vient? Et ce livre est absolument, je trouve, l'écriture magistrale. Voilà, c'est magnifique. David Lopez au seuil.
Le conseil d'Olivia.
Un livre qui s'appelle Marraine, de Jean-Baptiste Andrea, qui est publié à l'Iconoclaste. C'est aussi l'histoire d'un enfant. Un enfant dont les parents tiennent une station-service au milieu de nulle part, et un enfant qui n'est pas comme les autres. On ne sait pas ce qu'il a, mais on voit bien qu'il raconte le monde d'une manière très différente du commun des mortels. Et puis un jour, il décide de fuguer, et il va rencontrer une petite fille qui va s'improviser sa reine. C'est un roman, là aussi, je trouve, d'une poésie incroyable. C'est toujours très difficile de raconter le monde au travers des yeux d'un enfant. C'est encore plus difficile.
Parce que c'est à la première personne.
De le raconter aux yeux d'un idiot ou d'un simple d'esprit. Il n'y a pas une phrase qui ne va pas. Jean-Louis, tu peux l'ausculter. Oui. Ouais. Chaque phrase marche. C'est d'une poésie, d'une beauté inouïe.
Je le note.
Et Marraine, c'est aux éditions de l'Iconoclaste. Beaucoup aimé. J'ai aussi un premier roman à conseiller, mais je crois que Jean-Louis a le même que moi, donc je vais être très rapide. C'est donc chez l'éditeur de En attendant, Beau Jungles, d'Olivier Bourdeaux. C'est chez Finitude. Pourquoi les oiseaux meurent.
Pour débuter, Finitude, c'est pas mal. Hein,
de Victor Poucher, premier roman.
J'ai adoré aussi.
Où un jeune agrégé de lettres fait une croisière de Paris à Honfleur, avec Halte à Rouen, où s'est produit un phénomène étrange, une pluie d'oiseaux morts.
À Bon Secours, pour être précis.
À Bon Secours, absolument.
Oui, qui est connu pour sa côte. Tu sais que c'est la côte où Jean Robic a gagné le Tour de France 1947.
À Bon Secours.
En déposant Brambilla, dit la Brambille, ce ballot qui portait le maillot jaune. Ah oui.
Mais ça, il n'en parle pas. Hein.
Il n'en parle pas du tout. C'est hors sujet total.
Il parle de Félix Archimède Poucher, qui devait être son aïeul, qui était chirurgien et botaniste.
Si vous allez à Bon Secours, vous verrez une statue de Jean Robic dans la côte.
Les oiseaux. Ils tombent là.
Il pleut des oiseaux, mais des oiseaux morts. Notre agrégé, qui est en train de rédiger une thèse, mais il essaie de l'oublier parce que ça ne lui dit rien d'écrire sa thèse, il cherche des prétextes pour l'en distraire, et il trouve celui-là qui n'intéresse personne, des oiseaux morts sont tombés. Donc il part dans une sorte de road trip californien.
Non, c'est pas un road trip, il descend en bateau.
C'est ce que j'allais dire, c'est un road trip, sauf que c'est pas un road trip, parce que ça se tient pas sur la route.
Il descend la Seine.
Mais sur le fleuve, c'est histoire de
road
dire.
Trip.
Bon.
Voilà.
River. Et c'est pas californien non plus, c'est absolument normand.
Voilà. C'est aussi une ode à la Normandie.
Ah oui, c'est un hommage.
Même si c'est un peu trop sur dans la
C'est de l'autre côté de l'eau pour nous. C'est de l'autre côté de l'eau.
Non, on aime beaucoup, nous, Pourquoi les oiseaux meurent,
c'est très
Victor Poucher.
C'est un mélange d'humour,
Finitude.
Et d'inquiétude aussi.
C'est normand.
J'avais complètement oublié qu'il fallait amener un premier roman. Amené un livre magnifique, mais qui n'est pas un premier roman, qui s'appelle Les Corps Vulnérables, de Jean-Louis Baudry, qui est mort il y a quelques mois. C'est un livre extraordinairement beau.
Ah, c'est
une ode à sa femme disparue.
Ah oui, mais...
Et voilà, aux éditions de l'Atelier Contemporain.
Mais là, tu t'es planté.
Oui, je me suis planté. Mais n'empêche que c'est un livre magnifique. Bon. Et je suis bien content de le citer.
Tous ces conseils, même celui de de Michel. Vous les trouvez sur le site du Masque et la Plume. Franceinter.fr. Merci Olivia de Lambertorine, Élie Capriel-Lyon, Jean-Louis Hézine et Michel Crépu pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lysiane Selam. Ce soir, au Charles Trenet à la technique, je les remercie, Eric Boisset, Stéphane Beaufis, Lidwin Caron et Diana Alcide. La réalisation était de Didier Lagarde. Notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque, eh bien, c'est jeudi prochain, 31 août. Je vous attends à 20h au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour une émission, une seule, consacrée au cinéma. On parle donc de films la semaine prochaine et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.